Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour parler agilité et numérique responsable. Merci aux sponsors qu'on a applaudi ce matin. Et c'est vachement chouette de pouvoir faire des agile tours, donc merci à eux. Hop. Et aux autres partenaires. Et merci beaucoup aux t-shirts orange. On va attendre que les gens s'assoient. Hop. Ça, c'est la couverture officielle. Alors, c'était les couleurs d'automne. Je pensais juste faire septembre, octobre, novembre. Mais finalement, je suis là aujourd'hui. Donc, on est parti. Donc, je me présente rapidement. Je suis Gwenaëlle Irien. Je suis coach agile, coach pro. Et plus particulièrement, je travaille sur la prise en compte des enjeux de la crise climatique par les entreprises dans le domaine du numérique responsable. Mais comme je suis touche à tout et que tout est interconnecté quand on parle du climat, voilà. Et je suis consultante chez Neosoft. Alors, avant qu'on commence, je ne sais pas si vous connaissez le bouquin de Daniel Kahneman qui parle de système 1, système 2. Ouais, pour ça, les t-shirts orange, ça ne m'étonne pas. Donc globalement, ce qui consomme le plus d'énergie chez vous, c'est votre cerveau, chez nous tous, hein, les êtres humains. Et donc on a dans le bouquin, ce dont il parle, c'est du fait qu'on va avoir une prise de décision automatique avec ce qu'on sait qui nous permet d'économiser de l'énergie et de prendre rapidement des décisions, souvent émotionnelles. Et qu'on a aussi un deuxième système de pensée qui se branche, qui se met en activité à partir du moment où il faut qu'on réfléchisse aux choses, à partir du moment où il faut qu'on se pose des questions, qu'on remette en cause, etc. Donc aujourd'hui, si c'est OK pour vous, on va faire du système 2. Parce que s'il y a vraiment un truc à prendre en compte quand on parle de numérique responsable, mais de manière générale de la crise climatique, c'est qu'un truc qu'on pense OK aujourd'hui sera peut-être plus OK dans 2 ans. Tout est remis en cause tout le temps, les rapports du GIEC, tout ce qui est au niveau de la science, on est constamment en train d'apprendre. Et donc, si vous vous engagez sur ce chemin, et c'est ce que vous faites en étant ici, donc merci beaucoup, sachez qu'il va falloir continuer à apprendre, amélioration continue. Après, vous êtes agiliste certainement pour la plupart, donc comme on en parlait avec Fabienne à l'atelier d'éco-conception, qui était vraiment chouette, si l'amélioration continue, ça vous parle, félicitations, il n'y a rien qui change, on continue à faire ça. Et donc voilà, toutes les sources sont en description. Il y a un site qui est dédié à cette conférence-là, parce que je mets en avant le fait que d'autres personnes puissent la donner à ma place, en fait, que ça se donne. Voilà, donc si un jour vous voulez être speaker, on peut en discuter. Et donc il y a un site avec vraiment toutes les ressources à la fin. C'est bon pour vous? On n'est pas très nombreux, donc ça peut être chouette qu'on puisse interagir, se poser des questions. Alors, le numérique. À partir du moment où vous vous connectez à Internet, vous avez un téléphone, un périphérique, vous êtes, félicitations, citoyen de ce 7e continent. Alors on parle 7e continent des fois des déchets ou du numérique, donc à ne pas confondre, mais là ce serait du numérique. Vous êtes citoyen d'un continent, des personnes qui utilisent le numérique. Comme tout continent, on a des problématiques. Par exemple, le fait qu'on a 3 fois l'impact CO2 de la France, à nous tous. Mais on va avoir aussi des problématiques d'accessibilité, de moyens. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers. Ben, c'est pareil, tout le monde n'a pas le dernier iPhone. Tout le monde n'a pas les mêmes facultés visuelles, auditives. Ben, c'est pareil, ça se passe aussi comme ça par rapport au numérique. Mais si je vous fais cette conférence aujourd'hui, j'aurais jamais pu la faire sans le numérique. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur Internet, en autodidacte, grâce à plein de plateformes. France Université Numérique, que je remercierai jamais assez, le MOOC de l'INRIA, qui est génial. Mais il y a tellement de choses, par l'ADEME, par le GIEC. Enfin, le numérique, ça peut être vraiment très très bien pour pouvoir apprendre. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour le conserver le plus longtemps possible, pour le faire grandir et que les générations d'après y aient accès? Ça va vraiment être cette question-là qu'on va se poser. Petite question, vous avez tous des téléphones, j'imagine? Ouais. Qui a un téléphone qui a plus d'un an? Ok. Qui a un téléphone qui a plus de 2 ans? Ok. 3 ans? Ah, pas mal. 4? Ah, pas mal. 5? Eh, franchement. Alors, le but du jeu, là, ce serait vraiment d'avoir un téléphone qui tient au moins 5 ans. Le fait qu'il y ait une obsolescence programmée et psychologique, dont on va parler tout à l'heure, c'est un problème. Donc, par exemple, les recommandations de l'ADEME, ça va être 5 ans pour un téléphone. Plutôt bravo, vraiment. Et combien vous avez de périphériques? On dit que les Européens en ont entre 10 et 15. Donc, je compte aussi les machines connectées et tous les bazars connectés. Hein. Ouais, je vous laisse compter un petit peu. Qui en a, allez, 5? Ouais, ok. Au moins 5? Moins de 5? Oh, bravo. Ok, ok. Et une dizaine? Ah ouais, il y a quelques technophiles aussi. Hein. Ah, la technologie. C'est compliqué cette question. Mais on va en parler encore. Quand j'ai commencé à donner cette conférence, donc il y a un an, je faisais toute une sensibilisation autour des chiffres. Là, je pense que les gens sont plus ou moins quand même sensibilisés. Par contre, je trouve qu'on ne parle pas encore assez d'éco-anxiété et des difficultés que ça peut être de se mettre à réfléchir à la crise climatique et au numérique responsable. Et donc, c'est ça que j'essaie de mettre en avant maintenant. Le dernier rapport du GIEC vient de sortir, donc niveau sensibilisation, on est pas mal. Mais par contre, travailler sur la crise climatique et le numérique responsable, c'est avoir constamment en tête des dissonances cognitives, comme le fait que notre espèce a permis de faire du ski dans le désert, mais que dans le même temps, on puisse plus en faire dans la montagne. Ce genre de truc, là, le cerveau, il aime pas, les émotions, il aime pas, c'est compliqué. Et donc, si vous vous intéressez à ce sujet-là, bah, ça veut dire que vous allez aussi prendre en compte pas mal de choses émotionnellement difficiles. Faut pas rester tout seul, faut en discuter, faut se mettre à plusieurs, et surtout, faut agir. Et donc, le but du jeu de cette conférence, ça va être de vous ouvrir plein de possibles pour que chacun, vous puissiez trouver des pistes d'action. Zapette. Voilà. Bon, comme il vient de sortir, je peux pas m'empêcher d'en parler une petite seconde. Faut pas que je parle trop fort, on m'a dit dans le micro.
Ça va ?
On a vraiment les moyens d'agir. On les a, on sait comment faire, c'est tout marqué dans le rapport. Par contre, il faut vraiment qu'on prenne des décisions politiques, là. Il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on prenne des décisions. Et donc, bah, si on est là aujourd'hui ensemble, c'est pour pouvoir justement pousser des décisions, réfléchir ensemble et faire bouger les choses. Donc, je trouve ça positif qu'on ait les moyens de faire les choses, qu'on ait les connaissances, qu'on n'ait pas forcément à attendre un grand boom justement technologique. On a déjà ce qu'il faut. Par contre, voilà, il faut pousser politiquement. C'était le moment sensibilisation actuelle. Alors, maintenant qu'on a parlé du numérique, que c'est un continent qui nous rassemble tous, tu vois, on va reparler de cycle de vie, Fabienne, j'aimerais attirer votre attention sur deux notions du cycle de vie qu'on ne prenait pas en compte avant. Alors, il y a la phase de la conception. Alors, autant en tant qu'espèce humaine, la phase de la conception, ça nous branche plutôt, on est intéressé par ce truc-là. Autant savoir comment est-ce que sont faits nos téléphones, ça nous a jamais vraiment trop passionnés, quoi. Il a fallu qu'on décide de prendre en compte les choses et qu'on se mette à réfléchir et qu'on accepte qu'il y a une problématique autour de ça. Alors, la conférence d'Aurore Stéphan à l'USI, que vous retrouverez sur les ressources, si vous voulez apprendre des choses sur les problématiques des métaux rares, il y a tout dedans. Regardez pas ça tout seul. Et puis, prévoyez-vous un petit moment chouette après, parce que ça se coupe bien. Mais si vous voulez vraiment vous informer sur le début du cycle de vie des périphériques, c'est de la bonne. À votre avis, il faut combien de kilos de matières premières pour fabriquer un ordinateur portable, comme le foutu Mac que j'ai là ? Un kilo ? Si seulement. Vas-y, fais péter les enchères, là. On a combien ? Une tonne 5 ? Ouais. Un peu moins, quand même, mais on est vraiment dans ces enjeux-là. C'est plutôt genre une belle vache de 800 kilos. Tu te rends compte ? Pour réussir à faire un ordinateur comme ça. Et je te parle pas de la flotte. Parce que la flotte, et là, avec le niveau de sécheresse en ce moment, je pense que tout le monde est en train de Sainte-Soline, tout ça, ça doit vous parler. La flotte, c'est un vrai, vrai gros problème. Alors, c'est un vrai gros problème au moment de l'extraction des matières, mais c'est un vrai gros problème aussi dans le deuxième aspect dont je voulais vous parler, qui est la fin de vie. Avant, dans notre façon de consommer, c'était c'est dans le magasin, ouais, c'est trop bien, est-ce que j'ai les sous ou pas, est-ce que ça me plaît, hop, dans le panier, hop, à la maison, je l'utilise, hop, j'en ai plus tes poubelles. Et ça ne me concerne plus. À partir du moment où je jette quelque chose, c'est plus à moi, je l'ai jeté. Bah en fait, il faut qu'on arrête de penser comme ça. C'est pas possible de penser comme ça. Parce que c'est difficile pour nous de parler de la vieillesse, c'est difficile pour nous de parler de la fin de vie, c'est difficile pour nous, en tant qu'humains déjà, d'apporter notre propre mortalité. Et bah c'est difficile pour nous d'aborder la mortalité de nos ordinateurs et de nos téléphones. C'est très compliqué. Bah, une des raisons pour ça, c'est qu'en France, on arrive à en recycler à peu près 15%. C'est pas très top. Plus tard, il y a une vidéo qui parle de ça, je vous la passerai. Dans le monde, c'est 10% environ. Vous savez où ça finit, tout le reste ? Alors, enfoui, dans la flotte. Et mais dans la flotte et sur la terre de qui ? Ouais, exactement. Des pays dont on extrait les matières premières. Donc, on extrait, on utilise et on rebalance. On est chouette, hein. Et faites attention parce que c'est un sacré engrenage de réflexion de se mettre à réfléchir sur nos moyens de consommation quand on est européen. Et donc félicitations, quand vous commencez à travailler sur les enjeux de la crise climatique et du numérique responsable, bah vous vous mettez à activer un tas de réflexions sur notre modèle social, économique, sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on apporte à la planète ou non. C'est plein de questions comme ça. Et donc c'est pour ça aussi que c'est difficile de se poser ces questions-là. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de le faire dans vos entreprises, ce qu'on appelle un bilan carbone, mais aussi des analyses de cycle de vie. C'est que ça permet de factualiser les choses et d'avancer, d'avoir des chiffres, des indicateurs sur lesquels se baser et ensuite avancer. Et ça permet de sortir de qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je pense, quelles sont mes valeurs. Au moins là on a des chiffres et puis on sait où avancer parce que y a plein d'organismes qui nous disent où est-ce qu'il faut qu'on aille, par contre sur le fait de réduire. Donc basez-vous sur des chiffres, discutez sociaux, discutez psycho, mais basez-vous aussi sur des indicateurs. Je vous donne les tips parce que je me suis pris plein de pain. Et d'ailleurs, c'est aussi le sujet de la conférence d'aujourd'hui. On en parlera juste après, c'est pourquoi vous, Agilis, vous êtes là et pourquoi je vous parle de ça. Alors, numérique responsable. Donner la petite définition, ça compte toujours, hein. Maintenant qu'on a vu tout ça. C'est une démarche d'amélioration continue. Welcome les agilistes, on en a parlé, qui vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale. On vient d'en parler sur le social, et il y a plein de choses à creuser. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le territoire du numérique responsable. Vous allez avoir deux grands domaines. Tout ce qui va être le Green IT, donc la sobriété numérique, comment on restreint nos usages de services, mais aussi tout ce qui est les techniques d'information et de communication. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire de l'éco-conception produit, mais aussi de l'éco-conception technique. Donc là, les informaticiens, les devs, les ingés, vous avez toute votre place, vous avez plein de choses à pouvoir apporter. Mais si ça vous intéresse l'autre partie, allez-y aussi. Hein. Le but du jeu, c'est que ça vous intéresse et que vous ayez envie d'y aller, en fait. Et l'autre partie qui est vachement intéressante, c'est ce qu'on appelle l'IT for good. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on va mettre la technologie au service de la transition écologique. Donc ça peut être comment est-ce qu'on fait en sorte... Je reprends mon souffle, je parle peut-être un peu vite là. J'ai bu beaucoup de café et je me suis levée très tôt ce matin. Comment est-ce qu'on va faire en sorte, par exemple, de savoir quand est-ce qu'un champ a besoin d'être irrigué, plutôt que de l'irriguer de manière automatique. Peut-être qu'on peut développer une technologie qui nous permet de savoir comment faire. Mais est-ce que cette technologie, elle n'aura pas un impact négatif sur autre chose? Et nanana. C'est toujours ces questions-là à se poser. Mais en tout cas, ce que j'aime bien avec cette carte, c'est qu'elle permet de montrer que vous avez tous des appétences possibles pour pouvoir travailler là-dessus. En tout cas, vous avez des compétences à pouvoir mettre au service de ça. Et donc, pourquoi je vous parle aujourd'hui? Simon Sinek, ça doit vous parler. Ça fait longtemps qu'on travaille avec lui. Non? Non? Je redéfinis un peu? Ouais. En gros, c'est un des TEDx les plus vus au monde. Donc allez-y, c'est intéressant. Ça dure 15 minutes en anglais, 17 je crois. C'est pas mal du tout. J'ai la version courte là. En gros, ce qu'il dit, c'est que quand on achète un produit d'une entreprise, on va l'acheter sur pourquoi l'entreprise, elle développe ce produit-là, pourquoi elle vous le propose, et pas seulement sur « j'ai envie de faire plein de thunes ». En général, ça ne nous donne pas vraiment envie d'acheter le fait que l'entreprise propose juste le fait de faire des sous. Par contre, le fait de proposer quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui a de la valeur sociale, etc., ça peut emmener et tous les gens à l'intérieur de votre entreprise et vos consommateurs. Et donc, je me suis demandé... Fabrice, qui est là, au fond, qui travaille à l'INSEE et qui m'a demandé de créer une conférence sur justement le numérique responsable et l'agilité, quand il m'a demandé de faire cette conférence, je me suis demandé, mais moi, qu'est-ce que j'ai à apporter au sujet en plus? C'est quoi mon why de vous parler de tout ça, alors qu'il y a déjà plein de choses sur le Green IT, il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet. J'ai regardé une tonne de vidéos, je me suis beaucoup renseignée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux apporter? Et en fait... comme je suis agiliste, que je me prends des pains en amélioration continue, en travail avec les équipes, je me suis dit que peut-être il y avait un lien à faire entre accompagner une entreprise vers du numérique responsable et être agiliste au quotidien. Je me suis beaucoup amusée sur l'organigramme. Il est plus ou moins compliqué en fonction de la structure dans laquelle vous travaillez, mais des fois c'est un vrai sacré casse-tête. Et donc quand on travaille en tant que Scrum Master ou coach agile, ce que j'ai fait et ce que je fais encore, on s'attaque à beaucoup de changements de parties prenantes, de besoins. Et donc, on va traiter ça par de la communication, de la transparence, de l'inspection. Vous connaissez le bail. Ça, c'est bon pour vous. Et quand on passe du côté Zapette. Quand on passe du côté complexité numérique, on se retrouve avec beaucoup d'usages différents, des périphériques différents, des besoins différents. On a parlé d'accessibilité, plein de systèmes aussi différents, parce qu'il y a des grandes différences entre comment est-ce qu'on utilise un téléphone qui a un OS propriétaire et des OS qui sont en constante évolution. Voilà. Plein de questions. Mais par contre, on le traite exactement de la même façon. On va inspecter, on va regarder, partir d'un point de départ, améliorer, prolonger, recycler. Et donc, il y avait vraiment un lien. Et donc, pour moi, même combat, on va apprendre à accompagner dans un système complexe en transmettant du sens et des responsabilités afin d'évoluer dans d'autres façons de travailler quand on est agiliste, mais aussi de produire et donc de consommer. Donc félicitations, si vous êtes agiliste, vous avez pleinement votre rôle pour faire du numérique responsable en fait. D'ailleurs, je compte sur vous et j'espère qu'à la fin de la conf, vous serez chaud pour faire ça dans vos entreprises. C'est le but. Après, je suis disponible après si vous voulez en discuter. Hein. Pour redonner un tout petit peu de sens pour terminer sur cette partie-là, nous on est là. On est les premiers adoptants qui veulent faire travailler les entreprises dans la prise en compte des enjeux de la crise climatique et du numérique responsable. Et donc je pense que pour ceux qui ont accompagné des startups ou qui travaillent sur l'innovation, la création de produits, vous connaissez ce qu'on appelle l'abîme entre les premiers adoptants et la majorité précoce qui va commencer à utiliser vos services. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, un peu. Des fois on a une super idée, on la lance, on l'expérimente. Et boum, le mur, l'abîme. Ben, s'il y a suffisamment de personnes qui ont compris l'usage, qui en ont envie, qui en ont besoin, etc., on va vraiment avoir une adoption. Et donc, le but du jeu, c'est de transmettre le plus possible, de faire des fresques du climat, des fresques du numérique, de la sensibilisation, pour qu'on soit de plus en plus nombreux, justement, à prendre en compte ça. Plus on est nombreux à en parler, plus on va y arriver. Voilà. Et donc, par contre, vous allez vous heurter à un truc. Et je trouve que Tom Sinclair, il le dit très très bien. Il est très difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand il est payé pour ne pas le comprendre. Voilà, ça dépend des produits sur lesquels vous travaillez, des entreprises et des valeurs qu'elles sont en train de porter. Mais des fois, ça peut être particulièrement dur de se lancer sur ce truc-là. Donc, il faut régulièrement faire le point, discuter avec d'autres personnes, pas rester tout seul. Je vous le répéterai de toute façon plusieurs fois. Mais on n'est pas tous égaux en tant qu'agiliste sur qu'est-ce qu'on peut ou pas apporter à une entreprise en fait. Ça peut être vraiment difficile. Est-ce que ça vous parle pour l'instant ? Ouais. Donc, en résumé, la transfo agile, c'est accompagner avec un nouveau sens, de nouvelles valeurs, une organisation avec leurs capacités, leurs pratiques, et pour transformer une entreprise pour qu'elle devienne numériquement et socialement plus responsable, on va faire exactement les mêmes choses. Donc oui, on va se baser sur des pratiques comme le craftsmanship, l'event storming, le DDD, on va regarder aussi au niveau des frameworks, des méthodes de conception de produits, l'éco-conception, on va en parler juste après. Mais il faut aussi qu'on se base sur le sens, sur le mindset, parce que l'humain, ce qu'il aime bien, c'est qu'on lui raconte des histoires, et que ces histoires-là, elles le fassent cheminer. Et donc le but du jeu aussi de cette conférence, c'est un peu de vous raconter des histoires, que ça vous donne envie en racontant des histoires, en apportant du sens. Et donc, avec les équipes, j'ai décidé de travailler sur comment est-ce qu'on peut prendre le manifeste agile et lui repatouiller sa tête pour faire du numérique responsable. Alors, je vais vous faire une proposition pendant cette conférence-là. Ce n'est pas la proposition, c'est une proposition. Vous pouvez chacun faire ce que vous voulez avec, juste essayer d'expérimenter en fait. Même en format de rétrospective, en format d'atelier, posez la question à vos équipes et ça peut être vachement intéressant. Ça vous sortira plein de choses. Intelligence collective, autonomisation, tout ça, vous connaissez. Donc, si vous avez envie, on échange nos feedbacks à la fin. Est-ce qu'il faut que je repasse sur le manifeste en tant que tel ? Des fois, je n'ai pas d'agiliste dans la salle. Je l'ai donné à Tours il n'y a pas très longtemps, j'avais une agiliste dans la salle. Donc, voilà. Est-ce que là, c'est bon ? Ouais, on est OK. Surtout le truc... Oula, la zapette. Le truc à retenir, c'est que c'est les choses qui sont écrites à gauche qui sont à pousser par rapport aux choses de droite, même si on a besoin de processus et d'outils. Le but du jeu, c'est que ça ne mette pas en péril les personnes et leurs interactions, et ainsi de suite. Et donc, c'est sur ce format-là aussi que je me suis basée. Et donc, pour les personnes et leurs interactions, plutôt que les processus et les outils, je vous propose l'humain et ses besoins, plutôt que l'exploitation de ses biais cognitifs. Parce qu'on en a des tonnes, et qui sont très utiles pour vendre des choses. Zapette, voilà. Alors, il y a plein d'exemples, mais il y en a un dont j'aime bien parler, parce que je suis gameuse, Et c'est peut-être pas forcément encore suffisamment connu. Parce que ça s'appelle les Wholesome Games. Je ne sais pas si vous connaissez les Wholesome Games. Alors clairement, on n'est pas sur du triple A, performance, jeu à patoune. Hein, c'est pas le... c'est pas le truc. Même si en tant que joueuse de StarCraft 2, j'aime bien. Hein. J'aime bien la perf, les ergues, tout ça. Bon. Mais quand même. Les Wholesome Games, c'est des jeux qui sont développés avec, par exemple, le moins de technologie possible, le plus light possible, pour faire en sorte d'utiliser le moins de ressources possible. Ça va être aussi tout ce qu'on appelle, vous savez, les jeux cosy, les jeux où on fait des petits puzzles, mais dans une ambiance détendue. Des choses, en fait, des expériences vidéoludiques qui vous permettent d'expérimenter plutôt la résilience émotionnelle, le partage, la collaboration, l'autonomisation, plutôt que juste la perf et je te défonce ta tronche. Et donc, les Wholesome Games, ça peut aussi justement être comment est-ce qu'on fait pour utiliser les biais cognitifs humains, mais de façon positive. Parce qu'il y a un gros truc dont on ne parle pas assez, ça va être par exemple, faut que je rechange ma carte graphique tous les 2 ans pour pouvoir jouer à un nouveau jeu. Moi j'en ai marre, j'ai un PC que je mets à jour régulièrement avec de nouvelles pièces, il s'appelle Terry. Si un jour il meurt, je vais être extrêmement triste parce que Terry c'est mon chouchou. Mais Terry en tant que tel c'est un concept, hein. C'est comme l'être humain, vous n'êtes pas la même personne que la personne que vous étiez à votre naissance. Toutes vos cellules se sont reconstituées, vous êtes une autre personne. Bah Terry c'est un peu pareil, il reste juste le boîtier qui est vraiment Terry on va dire. Mais ça m'embête de devoir changer tout le temps des pièces dans Terry, j'aimerais bien qu'elles tiennent plus longtemps pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. Il y a un autre concept dont on ne parle pas forcément suffisamment avec les biais cognitifs, ça va être la guerre de l'attention. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je vais vous donner un bon exemple sur ça. Est-ce que ça vous parle des dark patterns ? Non ? Alors on va faire une petite contextualisation. Vous avez vachement envie de partir dans un week-end en amoureux avec votre ou votre chérie, IE. Du coup, vous êtes sur Booking, vous voulez réserver une chambre. Et puis, il y a des petits messages un peu partout qui vous disent que vous êtes 5 en ce moment en train de regarder cette page-là. Et puis aussi, en rouge, il n'y a plus qu'un seul hébergement qui est disponible. Ça, c'est des patterns pour pousser à la consommation, qui vous poussent en fait. Et donc, ça serait vraiment comme avoir un être humain à côté de toi qui serait en train de dire « fais attention, bientôt la chambre ne sera plus disponible ». Ça vous fait exactement la même sensation au niveau cognitif en fait. Et donc les data patterns, ça va être toutes les façons qu'on va avoir de développer et de concevoir dans le numérique des choses qui font que vous allez consommer plus, que vous allez stresser, que vous allez avoir la... J'y arrive jamais en anglais, mais FOMO, Fear of Missing. Tout ça. Donc, par exemple... à chaque fois que vous allez refresh Instagram, Twitter, etc. Et donc, un truc à garder quand on fait de la conception produit, c'est qu'un cliqueur n'y arrive jamais seul. S'il clique sur le bouton, c'est qu'on a conçu le bouton, qu'on a conçu l'usage du bouton. Et donc, notre responsabilité en tant que personne dans le numérique, c'est de se poser la question de ce bouton-là. Est-ce qu'il est pour le bien commun ou est-ce qu'il est juste pour la moula ? J'essaye d'actualiser avec le vocabulaire Jones. Ça peut être un échec, vous pouvez me le dire. Merci à mon petit frère. Ça, c'est vraiment... alors, il n'y a pas tout, mais il y a tout ce que vous pouvez aller regarder sur le concept, justement, d'exploitation des biais cognitifs. Donc, mon père qui a regardé la conférence à Tours l'autre fois m'a dit « Mais tu sais, on lit de gauche à droite, et du coup, c'est un peu compliqué. » Mais en gros, les trucs de droite... c'est vraiment les choses que vous allez pouvoir aller explorer et regarder pour transformer votre vision en disant « Ok, peut-être que ça, c'est des choses que j'utilise. Comment est-ce que je peux essayer de retourner ça avec les façons plutôt à gauche ?» Donc, comment est-ce que je prends en compte les personnes âgées ? Comment est-ce que je prends en compte les personnes qui sont handicapées ? Comment est-ce que je prends en compte les gens qui n'ont pas le dernier téléphone ? Mettre des contraintes. Je vais en reparler, hein, de la création par la contrainte. Alors, ça, c'est un des meilleurs exemples que j'ai, si ça ne vous a pas convaincu sur les biais cognitifs. Qui utilise Netflix ? Ouais, ok, n'ayons pas honte, on utilise tous des services de streaming, Netflix, Disney+, toute la cohorte. Vous savez ce qu'a dit le patron de Netflix à un journaliste qui lui demandait quel était son plus grand concurrent ? Je vous laisse mijoter là. À votre avis, Netflix, il a peur de qui ? Vas-y. Alors l'algorithme, c'est une question qui est intéressante, hein, parce que effectivement les data et comment on les utilise, c'est un gros truc, hein, sur la responsabilité sociale de comment est-ce qu'on design les data et l'intelligence artificielle. J'en parle pas dans la conf, mais il y a beaucoup de trucs, mais c'est pas ça. Il a dit le sommeil. Lui, ce qui lui pose le plus de problèmes, c'est le fait que vous ayez besoin de dormir 7 heures pour être en bonne santé. Voilà. Je sais pas s'il y a autre chose à dire. Je pense que ça définit bien. Ouais. Bah, c'est comment est-ce qu'on se met des limites, encore une fois, quoi. Comment est-ce qu'on pousse ou pas le fait que l'épisode d'après, il se mette en automatique et que le petit bouton pour dire « arrête-toi », il soit si court. Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là. Mais ça marche aussi avec un Instagram de plus, un tweet de plus, un post sur LinkedIn en plus, et je m'inclus dedans. Hein. Mais disons que c'est une des façons aussi qu'on a de consommer du numérique, il faut peut-être se mettre à repenser. Alors, au lieu de logiciels fonctionnels, avec une documentation complète, je vous propose des logiciels optimisés plutôt que des applications énergivores. Et là, je vous propose un autre concept que moi j'ai découvert en travaillant sur tous ces sujets, c'est le concept de bloatware. Est-ce que vous connaissez ? Alors, on va prendre un exemple. Qui utilise un ordinateur avec OS Windows ? Ouais. Qui a déjà passé plus d'une demi-heure de sa vie à désinstaller plein de trucs qui étaient préinstallés, qui étaient très lourds et très chiants ? Ouais. Félicitations, vous n'aimez pas les bloatware. C'est ça. Et donc un bloatware, ça va être comment est-ce qu'on pousse du contenu, de l'action, des mini-jeux, tout ça, alors que votre utilisateur, il n'a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, les tuiles avec des trucs sur Amazon, etc., qui sont déjà préinstallés et qui donc vont pousser à une consommation que vous n'avez pas forcément. Et donc encore une fois, c'est comme on est en train de concevoir des usages et des services. Est-ce que quand je demande un operating system, je demande à consommer ces choses-là ? C'est pas ça que j'achète, en fait. Alors pourquoi c'est là ? C'est ça, un bloatware. Et donc, un clicker n'y arrivant jamais seul. Pourquoi il y a des bloatware ? Vous pouvez regarder tout ça. Je fais une pause flotte. C'est ma dernière en agile tour, alors ça me fait un petit quelque chose. Mais après, je vais aller la donner dans une université. Ça, je trouve ça super chouette d'aller voir les jeunes. Un autre concept, hein, c'est vraiment le truc. Alors, dans les chiffres que je ne vous ai pas donnés au début, mais qui est vraiment important, c'est que à partir du moment où vous ouvrez le cellophane d'un téléphone que vous venez d'acheter, vous venez de consommer 90% de son impact CO2, de celui qu'il aura dans toute sa vie. C'est vraiment la construction qui coûte. En matière, on avait dit les 800 kilos, la flotte, la pollution. Allez regarder la conf d'Aurore Stéphane. Et comme c'est 90% du CO2 qui est craqué au niveau de la construction, bah en fait, les baskets les plus écologiques sont celles que vous portez déjà. Le téléphone le plus écologique que vous aurez jamais de toute votre vie, c'est celui que vous avez déjà commencé à utiliser. Et donc, il faut qu'on fasse des logiciels qui soient optimisés. Il faut qu'on fasse des logiciels qui soient le plus, caring pour les composants qui le composent. Parce que plus on l'use, plus on ira aller en consommer un autre. Et donc, plus il faudra qu'on reprenne des terres. Et donc, pour ça, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on conçoit comme usage et comment est-ce qu'on les développe. Et donc, plutôt que la collaboration avec le client par rapport à la négociation du contrat, je vous propose proposer de la valeur utile plutôt que de consommer et créer des marchés captifs. Là, on va parler d'obsolescence programmée et tout ça, d'obsolescence psychologique. Est-ce que vous connaissez le mouvement Oulipo ? C'est un mouvement littéraire. Ceux qui sont allés au lycée, qui sont nés à peu près dans les années 90 comme moi, normalement, vous n'y avez pas échappé. Ouais, je vois quelques sourires. En fait, le mouvement Oulipo, c'est des gens, mais pas forcément des gens qui écrivaient, mais c'était aussi des mathématiciens, un tas de personnes, qui ont décidé en fait d'expérimenter ce qu'on appelle l'écriture par la contrainte. Comment est-ce qu'on devient créatif ? Comment est-ce qu'on pousse des êtres humains à la créativité en leur mettant des barrières ? Et ça donne des trucs fabuleux, comme le fait d'avoir écrit un livre en entier sans la lettre E. C'est particulier, ça s'appelle la disparition. Vous voulez expérimenter un truc dans votre vie, la disparition est faite pour vous. <C'est>... Mais ça va être comment est-ce qu'on écrit un poème qui en même temps dessine une forme qui est en rapport avec le poème. C'est vraiment comment est-ce qu'on utilise en fait notre plaisir sur le fait de créer. Et donc, si vous voulez faire du numérique responsable et vraiment vous mettre un challenge, c'est la phrase que je vous ai mise. Découper son budget par deux, ça pousse à la créativité. J'ai moins de trucs, comment est-ce que je vais faire ? Par contre, découper son budget par 8, c'est là on approche la sobriété. C'est encore un autre concept. Faire moins, c'est un truc. Penser dès le début à vraiment pas utiliser des choses, c'est encore autre chose. Vraiment. Et c'est vraiment intéressant, c'est passionnant. Fabienne. Et donc un truc qui est vachement bien à expérimenter, c'est par exemple l'atelier, enfin les ateliers, le fait de travailler autour de ce qu'on appelle le design circulaire. Vous connaissez le design thinking ? Ouais, atelier d'innovation. Bon, bah déjà c'est pas mal pour sulfurer, mais alors là vous rajoutez les contraintes par rapport à la planète, la réutilisabilité et la prise en compte du fait que peut-être que l'humain à qui vous voulez pousser votre truc, il a pas besoin de ce que vous voulez lui donner en fait. Peut-être que le but du jeu c'est pas de pousser quelque chose, mais de regarder quel est le problème de la personne et comment le résoudre. Et en ce moment, en fait, on a tous des problèmes par rapport à la crise climatique, donc ça tombe bien, vous allez pouvoir résoudre plein de problèmes pour plein de gens. Par contre, il faut faire gaffe, parce que, comme je disais au début, c'est pas parce qu'on a une idée à la base qu'elle est forcément bonne après. Donc je vais reprendre ce fameux Steve Jobs. Au moment où il a poussé l'idée de l'iPhone, c'était une rationalisation de plusieurs objets. On est d'accord. Vous aviez le MP3 qui était un objet, enfin votre système d'écoute audio, mais vous aviez aussi le fait de passer des appels, le fait d'utiliser certaines applications. Au moment où il a créé l'iPhone, c'était une rationalisation des usages. Plein de trucs en un seul truc. Et puis, ils ont fondu les batteries directement dans le téléphone. Est-ce que ça, c'était vraiment le truc qu'il fallait faire ? Bah, c'était le truc qu'il fallait faire pour faire des sous. Ça, on est d'accord. Mais est-ce que c'était le truc qu'il fallait faire pour l'humanité ? C'est encore une autre question. Et donc, c'est toujours pareil, en fait. Il ne faut jamais se reposer sur ses acquis. Il ne faut jamais avoir pensé qu'on a trouvé la réponse, qu'on a raison, que... Parce que ce n'est pas possible, en fait. On est tout le temps en train de redécouvrir en quoi certaines choses qu'on fait ont un impact négatif sur d'autres. Comme tout est interconnecté, on est tout le temps obligé de traiter avec la complexité. Il y a le modèle Cinefin qui est vachement intéressant pour ça. Mais donc... Je trouve que l'iPhone, c'est un bel exemple de comment on essaie de faire bien peut-être à un moment et comment on peut complètement se planter ensuite si on perd de vue le fait de rationaliser. Je ne sais pas si son but c'était de rationaliser quand il a créé l'iPhone. Hein. Peut-être que c'était déjà la moula, hein. C'est pas... ou de créer un super objet. Enfin, je veux dire, le smartphone, c'est un truc. Hein. Mais voilà, ça peut servir d'exemple. Est-ce que vous avez encore des imprimantes chez vous ? Ouais, ah, pas mal. Parce que là, je trouve qu'il y a de moins en moins de gens. Moi, j'utilise celle de la Poste d'à côté de chez moi. Et pourquoi je me suis mis à utiliser celle de la Poste ? C'est parce que j'en avais marre que mon imprimante, elle soit tout le temps à court d'encre. J'en avais marre. Ça vous arrive aussi ? Ou c'est juste moi qui ne gère pas ? Non, ouais, ça vous arrive. Alors, je ne vais pas citer la marque, mais je pense que là, elle commence à être pas mal entendue. Le fait de fabriquer une imprimante, ça coûte cher, en fait. Par contre, ça ne vous coûte pas cher à acheter à la Fnac du coin. Par contre, ce qui va vous coûter vachement cher, c'est... les cartouches, parce qu'elles sont propriétaires, vous ne pouvez pas en utiliser d'autres, etc. Comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour créer un marché captif avec ces cartouches ? Et on propose des imprimantes pas chères, c'est rentré dans votre habitude de consommation, et ensuite, on va développer un petit logiciel qui fait qu'à chaque fois qu'il reste que 30%, enfin, il reste encore 30% d'encre dans une cartouche, ça va déclencher le fait que votre imprimante vous affiche qu'elle est vide. C'est pour de vrai, hein. Je ne suis pas en train de parler d'un méchant complot, etc. Je suis juste en train de parler du fait que bah, des fois, les industriels, quand ils conçoivent des produits, ils vont jusque-là. Un clicker n'y arrive jamais seul, la conception du produit en est responsable aussi. Par rapport au fait de pousser des besoins, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, il y a plein de débats sur Google, le fait qu'ils aient dit qu'ils étaient neutres en carbone, puis que machin, enfin... Mais c'est pas ça dont je parle là tout de suite. Là, on a Bing, qui est souvent préinstallé dans plein d'entreprises, et là, on a Google. Le truc qui m'énerve avec Bing, en dehors de le concept Bing tout court, c'est ça, là. Ça, on peut aussi le considérer comme un bloatware. C'est le carrousel des news, qu'on sait pas d'où elles viennent, les news, qu'on ne vous a pas demandé et que pour les désactiver, c'est extrêmement compliqué. Vous avez déjà essayé d'enlever les news de Bing ? Voilà. Voilà. Terrible. Et ben, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà cliqué sur ce petit bouton-là, le G de la chance sur Google. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le foufou et cliqué sur le bouton ? Ouais. Ouais. Et ben, en fait, ça vous propose une petite roulette qui défile. Et un des trucs, ça va être « je veux les tendances ». Et donc, en fait, quand tu cliques sur « je veux les tendances », tu te récupères des informations qu'il peut y avoir dans le carrousel. mais tu m'obliges pas à les regarder. Si je veux les chercher, je vais les chercher comme une grande. Mais sinon, tu me les pousses pas. Ben, je trouve que c'est un très très bon exemple de différence. Et donc, j'aime pas Bing, je préfère Google, en tout cas sur l'expérience utilisateur. Pour moi, ça fait vraiment une différence. Donc, pour pouvoir proposer de la valeur utile, l'éco-conception, le super atelier qu'on a fait avec Fabienne, mais l'event storming, la notion de prototype, je ne sais pas si j'ai le temps. C'est à quelle heure que je finis? 12h30? Ah, ça se joue, allez. Je me transforme. Je suis commerciale chez McDo. Ouais, je suis végétarienne, mais quand même. j'ai décidé de pousser à mon chef une nouvelle idée de hamburger aux spaghettis bolognaise. Vous trouvez pas que c'est une idée de fou? De fou, non? Mais quand je suis entrée dans son bureau et que je lui en ai parlé, il m'a regardé et m'a dit « T'auras pas un rond pour tester ça ?» Bon, lui, il y croit pas. Moi, je pense que je vais avoir la promotion du siècle avec ça, mais lui, il y croit pas. Du coup, il m'a dit « Bah, t'as 2 semaines pour me prouver que c'est une idée valide. Par contre, t'auras pas un rond, quoi. Tu te démerdes. » Donc, découper par 8 le budget marketing pour réussir à trouver la bonne idée. Allons-y. Aidez-moi. Comment est-ce que je prouve que mes hamburgers aux spaghettis sont une bonne idée, en dépensant le moins d'argent possible? Je construis rien, j'ai pas les moyens, je peux pas utiliser la chaîne de fabrication du McDo, j'ai rien du tout. Je peux pas le construire. Ah non, mais vraiment, il a fait le rat, hein. J'ai rien du tout. Hein. Allez, innovation. Vous allez me laisser toute seule expérimenter mon truc? Ok. Effectivement, il faut que j'arrive à montrer qu'il y a des gens qui en veulent. Par contre, sondage étude de marché, déjà, j'ai pas la thune. Ça marche pas. Alors, un truc que je vois beaucoup sur des propositions de services, ça va être la landing page. En fait, une seule page, vous proposez un produit, la personne, elle clique, et puis ça dit « Ah, désolé, on n'a pas encore développé cette fonctionnalité, mais promis, on vous la pousse bientôt. » Je compte les clics, et puis... Eh ben, ça, c'était la version numérique. Dans un McDo, je vais faire juste une photo de mon hamburger au spaghetti. Je vais le coller sur le menu et je vais mettre quelqu'un à la caisse qui va avoir un petit compteur et qui va compter à chaque fois qu'on me demande un hamburger au spaghetti bolognaise. C'est pas avec cette idée-là que j'aurai ma super promotion. Effectivement, personne n'en veut, mais ça m'a permis de le tester à bas coût. Et donc, une des façons en fait, d'innover et de regarder comment vous pouvez faire les choses, ça va être aussi, même avant de vous mettre à construire, même avant de vous mettre à pousser quelque chose, c'est déjà comment est-ce que vous pouvez le tester, mais vraiment à la racine même de l'expérience utilisateur que vous voulez offrir. C'est comme quand IBM a voulu développer une assistante vocale. Ils ont mis un mec qui dictait dans un micro et il y avait quelqu'un d'autre derrière le mur qui écrivait en fait ce que le mec disait en live. Et donc ça lui faisait la sensation de parler dans un micro et de voir de l'écriture qui se fait toute seule. C'est vachement rigolo, quoi. Ils ont pris juste 2 employés et ils ont testé comme ça. Et donc voilà, moi c'est la notion de prototype. Merci à Sébastien Ménétrier qui m'a appris ça. Je trouve ça super intéressant. Mais vraiment, basez-vous aussi sur le design circulaire et vous connaissez certainement l'A/B testing. J'ai pas forcément le temps d'aborder tout ce qui est l'obsolescence psychologique, mais c'est un vrai, 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 vrai sujet. J'en reparlerai peut-être un petit peu après sur le textile, par exemple, mais il y a plein, plein de choses à regarder là-dessus. Par contre, on va parler un petit peu d'obsolescence programmée. Est-ce que vous connaissez le cartel Phébus? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Dans le genre, c'est un méga complot, c'est pas mal aussi. Sinon, je vous pousse la chaîne de Horizon Gull, qui est très très intéressante. En plus, c'est un breton comme moi, donc très très chouette. En fait, toute l'histoire du cartel Phébus, mais je vous laisserai aller regarder ensuite sur Internet, c'est comment, au moment d'une des crises économiques qu'il y a eu aux États-Unis, on a inventé l'obsolescence programmée. On faisait des ampoules qui étaient super longues en durée de vie, qui étaient super solides. Au moment où on a commencé à utiliser des ampoules, donc c'était quand même il y a vachement longtemps. Ce genre d'ampoule. Bon alors, niveau consommation énergétique, il y aurait eu des trucs à revoir, hein, je dis pas. Mais à l'époque, elles étaient vraiment solides. Elles étaient tellement solides qu'elles pétaient jamais. Et donc les gens, une fois qu'ils en avaient acheté, bah, ils n'en rachetaient pas. Et donc, bah, ils se sont, les fabricants d'ampoules se sont tous retrouvés. On a appelé ça le cartel Phébus. Et ils se sont concertés avec leurs ingénieurs pour défaire le fait qu'ils avaient fait aussi bien pour faire en sorte que les ampoules elles pètent plus vite. Ouais, on est capable de faire ça. Hein. l'humanité. On fait des trucs. Hein. Et donc, une des grosses questions, je trouve, de cette conférence-là, c'est on fait des trucs, mais pourquoi on fait des trucs? Cette question-là, il faut vraiment qu'elle soit dans nos têtes. Et donc, je me suis amusée, j'aime beaucoup l'humour internet et les mèmes, de manière générale. Donc, en 3 slides, l'histoire de l'obsolescence programmée. Moi, ça me fait rire, mais voilà. On développe de la belle ingénierie. Si vous connaissez le bouquin de Daniel Pink, dans tous ses bouquins d'ailleurs, Daniel Pink, c'est génial. Et donc, il parle très bien de ce qui nous motive. Ce qui nous motive, c'est de faire des trucs chouettes. C'est de faire des trucs intelligents, c'est de faire des trucs de qualité, c'est de faire des trucs en autonomie, c'est apprendre, etc. Ça, ça nous motive bien. Donc on en fait des trucs chouettes, même des boosters qui réatterrissent. Pas de souci. Après, on fait ça. On invente l'obsolescence programmée. Et si possible, on fait un marché captif en plus. Comme ça, on peut récupérer encore plus de sous, puis ça tombe régulièrement. On pérennise le modèle, quoi. Et après, on en est là maintenant. On est en train de se rendre compte qu'on en a fait beaucoup des conneries et que ça a un vrai coup sur le climat, mais aussi sur les impacts sociaux, sur tellement de domaines. Donc on va parler d'indices de réparabilité, on va parler de Repair Café, enfin voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre pour compenser le fait que pendant un temps, on a pensé des choses comme ça. Est-ce que c'était pour relancer la croissance, pour les emplois, pour la masse de dollars, pour il y a plein de raisons au fait qu'on a fait ça. Mais maintenant qu'on le sait, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne suis pas là pour dire qu'on est une espèce détestable, etc. Je dis juste qu'on en est là. Donc maintenant qu'on le sait, comment est-ce qu'on bouge? Je suis très fière de mon 3 Spider-Man. Je l'aime beaucoup. Comme on est les citoyens aisés du continent du numérique, on a vu qu'on en avait plein, qu'on pouvait en changer régulièrement, même si très beau score hein, pour ceux qui avaient des téléphones là, vraiment propres. Bah, en fait, on a un grand pouvoir, donc on a de grandes responsabilités. Yes, ça c'est fait. Et donc, il faut qu'on arrête avec l'obsolescence programmée. Il faut vraiment qu'on arrête. Mais avec la fast fashion, avec tout ça, quoi. Il faut qu'on arrête de penser comme ça. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Parce qu'on sait qu'on est dans un monde fini. Ça, c'est prouvé. Le dernier rapport du GIEC, il le remonte. Donc c'est bon. Maintenant qu'on a compris ça, on avance. On accompagne nos entreprises à prendre ça en compte. Et donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on a compris un truc que ça veut dire que c'est une bonne idée jusqu'au bout. Et donc, j'aime bien utiliser Back Market, mais Vinted aussi, comme c'est une bonne idée, donc c'est du reconditionné, on récupère les objets, on les fait vivre plus longtemps, etc. Par contre, ça a tendance à nous en faire acheter plus. Parce qu'on appelle ça l'effet rebond. Je fais une bonne action, c'est mieux comme ça, etc. Mais du coup, je ne me rends pas compte que je suis en train de créer de nouvelles habitudes de consommation qui font qu'en fait, je consomme plus. Il faut tout le temps surveiller, c'est chiant. Hein, c'est chiant. Dès qu'on essaie de faire un nouveau truc, bah, faut le remettre en cause, quoi. Et donc, voilà, j'essaie de sensibiliser sur Vinted, parce qu'avant, je faisais que Back Market, mais la fresque du textile, c'est vachement bien aussi, je vous la conseille. Et sinon, sur le recyclage, il y a la super chaîne de Jamie sur YouTube. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est trop cool. J'adore ces vidéos, elles sont trop trop bien. Mais alors, celle sur comment recycler son smartphone, c'est pareil. Hein. En 10 minutes, t'es cadré, c'est bon, t'as toutes les infos. Puis après, tu peux en parler autour de toi. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour penser au bon moment dans notre consommation? C'est pas parce qu'il y a déjà un premier pas vers le fait de réutiliser que ça veut dire qu'il faut qu'on consomme quand même. Et donc, vous avez tout ça. Je vais essayer de mettre en commun un dictionnaire avec d'autres personnes. J'essaye aussi de travailler en cross-ESN. C'est pas parce qu'on est concurrents qu'on n'est pas tous en train d'affronter le même problème du climat. Alors, entraînons-nous. On va peut-être pas se passer tous nos secrets de cuisine, mais si vous êtes dans une ESN concurrente, venez, on va parler, on va faire des trucs. Je vous laisse avec la règle des 5 R pour le numérique responsable. Il me reste 15 minutes, donc ça va, on peut décélérer un petit peu. Refuser, moi j'aime bien l'utiliser dans les Agile Tours, parce que des fois on nous pousse des tote bags avec plein de trucs. Là, moi j'ai rien eu. En tout cas, en tant que speaker, on m'a pas poussé des machins. Je sais pas si vous, on vous a poussé des trucs, mais non, vous avez rien eu. C'est bien, non, d'avoir rien eu. Moi, je trouve ça chouette. Pas une gourde de plus, là, c'est bon. Hein, on arrête. Parce qu'une gourde, c'est bien, mais c'est comme les tote bags. Un tote bag, c'est bien. Trop de tote bags, c'est vraiment une connerie. Réduire, réparer, réutiliser, recycler. C'est vraiment les 5 R. Donc, sur tous vos objets numériques, vous pouvez regarder, en fait, par rapport à ces règles-là. Et pour ceux qui aiment bien les fringues, il y a celle-là que j'ai découvert à la fresque du textile, la méthode bisou. C'est trop mignon. Et en plus, ça marche vachement bien. Et donc, je vous propose de faire des petits exercices pour ceux qui achètent régulièrement des vêtements, par exemple. Vous y allez avec votre carte bancaire, vous rentrez dans le magasin, vous marchez, vous ressortez et vous achetez rien. Et vous pratiquez ça comme des katas pour changer nos habitudes, en fait. Parce que c'est pareil, hein, toujours, c'est sur l'image, l'obsolescence psychologique, etc. Enfin, il y a plein de choses à creuser. Et du coup, la méthode bisou, avant de sortir sa carte bleue, je trouve qu'elle est vachement bien. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai besoin maintenant? Parce que peut-être que je peux rentrer chez moi et puis que ça va changer mon usage, etc. quoi. Est-ce que j'en ai pas déjà un semblable? Est-ce que la matière, elle est OK? D'où est-ce qu'elle vient? Est-ce que ça va tenir longtemps dans le temps? Ça, parce que moi, les fringues qui s'explosent en 3 minutes... Moi, j'aime bien m'attacher à un objet que je vois se polir et s'user, du fait de l'avoir régulièrement avec moi. Je ne sais pas si ça vous fait ça. D'avoir toujours la même tasse à laquelle vous êtes super attaché, que si jamais elle se pète sur le sol, ça va vraiment vous briser le cœur. Vous voyez le truc, là? Moi, j'adore développer ce rapport-là aux objets. Et c'est développer ce rapport-là, le fait de prendre soin, le fait de faire attention, le fait de ne pas surcharger avec du méga code... Le fait, parce que là, je ne voulais pas raconter celle-là, mais le fait d'aller regarder ce vieux batch hideux avec tellement de classe imbriquée, de trucs, à chaque fois que quelqu'un doit toucher dessus, c'est vraiment... Si vous trouvez la personne qui a codé ça, mais en fait, ce n'est pas la personne, c'est les 70 consultants qui sont passés sur ce pauvre batch qui est en train de crever. Ben, c'est comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, en numérique responsable, au lieu de racheter juste un serveur de plus pour lui donner plus de capacité sans optimiser le code, comment est-ce qu'on fait appel à une super équipe de crafteux pour aller... prendre soin de cet horrible batch et de lui offrir une nouvelle vie merveilleuse où on améliorera ses performances et on pourra décommissionner au moins 3 serveurs, tellement c'est tout ça qu'il lui fallait pour survivre. Décommissionner, c'est la vie. Et donc voilà, pour le manifeste que je vous propose, donc c'est une des formes que ça peut prendre. Ouais, en fait, si je suis là, il ne le voit pas. Ouais. Et donc, ce que je voulais vraiment vous transmettre... Et c'est une phrase qui m'accompagne depuis que je suis ado. Merci aux parents de m'avoir fait lire Sartre quand j'étais jeunette. L'enfer, c'est les autres, ça fait réfléchir. Et ne lisez pas Les mots, sa biographie Un jour de pluie en Bretagne. Moi, c'est ce que j'ai fait. Waouh, oh, le cafard. Vachement intéressant, hein, mais il faut choisir son contexte pour lire Sartre. L'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, c'est-à-dire nous, citoyens d'une société de surconsommation ultra-capitaliste et ultra-interconnectée. Parce que c'est vraiment ce qu'on est et c'est factuel. Mais c'est ce qu'on va faire, maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on en prend conscience et qu'on peut en discuter, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qu'on a fait de nous, maintenant? Qu'est-ce qu'on en fait nous-mêmes, en fait? Moi, c'est cette question-là qui me porte énormément. Si vous voulez parler du climat, si vous voulez parler du numérique responsable, ou par exemple, moi, je suis végétarienne et végane à la maison, je le sais, hein, c'est pas en faisant du mal aux gens, en les jugeant, en les maltraitant, qu'on les fait changer. Et vous le savez, parce que c'est pas comme ça que vous accompagnez dans les entreprises. Vous prenez soin, vous écoutez, vous faites attention. Ben, c'est pareil sur ça. On n'est pas là pour juger. Par contre, maintenant que le constat il est fait, comment est-ce qu'on fait pour bouger? Moi, c'est vraiment ça que j'essaie de vous passer. Vous pouvez faire plein de trucs. plein de choses, vraiment. Mais surtout, si vous ne faites pas d'agile washing dans vos entreprises, bah en fait, vous ne ferez pas de greenwashing. Parce que quand vous ne faites pas d'agile washing, c'est-à-dire que vous prenez vraiment en compte le fait qu'on a défini des valeurs, on les fait vivre au quotidien dans l'entreprise. Je ne sais plus là, qui a dit ça il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était Céline à l'Agile Tournier la semaine dernière, qui disait « Quand les valeurs elles sont écrites en super gros sur les murs, je me dis « Oulala, est-ce que c'est vraiment mis en place ?» Donc si on fait vraiment vivre les valeurs qu'on prône, bah en fait on ne fera pas de greenwashing non plus, parce qu'on va vraiment s'interroger sur pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, etc. Et donc avant de partir, je voulais sur un petit jeu, parce que j'adore la phrase de Mark Twain, mais revisitée. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais est-ce qu'ils se sont demandé s'il fallait le faire? Vraiment? Genre les cotons-tiges en plastique, ça vous a rien changé qu'ils soient passés au niveau coton, ou en papier quoi? Non. Bon, on aurait peut-être pu le faire de base, parce qu'en fait, ça finit directement dans l'océan, ces conneries-là. Donc, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut vraiment qu'on le fasse. Et donc, je vous présente les superbes chaussettes Netflix qui mettent en pause votre épisode si vous vous endormez pour ne rien rater. Voilà. Est-ce que vraiment il fallait le faire? Ça existe réellement. Vendu en DIY, en kit sur leur site à l'époque. Hein. Ah oui,
oui, oui.
Donc, si vous voulez jouer à ça avec vos compagnons, compagnes, enfants, etc., on rentre en soirée et on dit « Allez, top départ en 10 minutes, toutes les innovations qui servent à rien. » C'est une bonne façon aussi de sensibiliser sur le sujet. Et donc, comme il est 21, on a un petit peu de temps pour échanger. Juste après, je vous donnerai les ressources. Est-ce que ça donne déjà un premier petit pas à quelqu'un dans la salle ? Je sais qu'on est filmé et que des fois ça fait peur. Alors, on peut aussi ne pas répondre, mais si vous êtes chaud, on peut prendre le temps. Sinon, on en parle après, quand j'ai terminé et que c'est plus enregistré. Ouais. Une fois que c'est plus filmé ? Ok. Toutes les ressources, si vous voulez aller récupérer. Et donc, quand je dis toutes les ressources, c'est vraiment tout le contenu que j'ai ingénéré dans mon petit cerveau, là, pour pouvoir créer ça. Ça m'a pris du temps, mais c'était vachement chouette. Moi, j'aime bien apprendre des trucs. Et puis, oui, bah, si vous voulez la donner de manière bénévole dans les Agile Tours, dans des assos, n'hésitez pas. En entreprise, non. Par contre, il faut qu'on discute des droits, etc. Mais par contre, de manière libre, non rémunérée, si vous avez envie d'en parler, je vous donne le kit, les slides, et puis hop, c'est parti, ça roule. Sachant que c'est une introduction au numérique responsable et au fait d'être porté par les agilistes, mais il y a tellement de trucs à dire. Je voudrais remercier ma famille, mes amis et mes collègues, y compris Thomas, avec qui j'ai super beaucoup travaillé et qui est trop trop chouette comme d'hab. Et puis bah, tous ceux qui s'engagent, qui m'aident à grandir. J'ai rencontré énormément de monde depuis un an que je fais cette conférence dans les Agile Tours. J'ai commencé à Agile en scène en 2022, en septembre. Et ça m'a permis de rencontrer plein de personnes exceptionnelles et avec qui maintenant je collabore pour faire avancer les choses. Donc merci à tous. Et voilà, c'est tout pour moi.